un slogan qui est resté, qu'on appelle Stentor. Stentor, parce que, tu sais, avec les géants, oui, certains qu'il y a une allusion, mais comment qu'on se tient dans n'importe quelle situation?
Jean-Philippe Bégin, t'es coach en chef des géants du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mettons que t'avais à expliquer à un joueur, justement, qui voudrait venir à Saint-Jean. Tu lui dirais quoi, mettons, pour, mettons, le faire venir?
Qu'est-ce que je dirais à un jeune? Pourquoi venir à Saint-Jean? Ben, un, c'est pas nécessairement vivre qu'est-ce qui se passe en ville. On est un cégep de région. Que toi, c'est ça te tente de faire une différence dans une organisation. Est-ce que ça te tente d'avoir un impact? Est-ce que tu as envie d'avoir un rôle qu'on va se rappeler de toi plus tard parce que tu as été faire la différence en quelque part?
Quand vous étiez arrivé à Toronto, il était écrit French Second Language.
Second Language, Laval Second Place. Dis, cette affiche-là, là, c'est immense.
C'est un segment que je voulais parler parce que j'ai trouvé que c'était tellement un bon point que tu avais amené parce qu'encore une fois, c'est des choses que les gens parlent pas. Ça devrait être parlé. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. C'est votre host, William Rochefort. Cette semaine, je reçois mon deuxième cégep en division 1. Je reçois les géants de Saint-Jean, Jean-Philippe Bégin. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'ai vraiment hâte de parler du cégep, mais aussi, tu sais, de qu'est-ce qui vous prépare pour la prochaine saison, aussi parler un peu de toi, tu sais, je pense que c'est important de parler, veux pas, t'es la tête du programme pour les prochains joueurs qui voudraient pas être venir à Saint-Jean. Je trouve ça hyper intéressant d'en parler. Merci, sérieusement, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, JP.
C'est plus que plaisir, Will.
Avant de commencer, la première chose qui m'a sauté aux yeux, puis c'est sûr que je vais me le faire demander... le gilet en air de toi, le numéro 4.
Ouais.
Est-ce que y a-t-il une histoire derrière ce gilet-là? Est-ce que c'est ton ancien gilet?
Ouais, exact. Dans ma forme, je suis arrivé ici au printemps 2019. Puis c'est un chandail que j'avais acheté à l'époque parce que j'ai joué pour les Géants jusqu'en 2011. Puis après ma carrière, j'ai pu acheter mon chandail. Puis c'est un chandail que j'avais toujours gardé de côté. Puis quand j'ai eu la job, mes prédécesseurs avaient toujours eu leur chandail qui était là, mais c'est leur chandail universitaire. Puis on était tous des anciens gars de Saint-Jean. Tu sais, Alexandre Vendette qui m'a coaché, c'était un gars de Saint-Jean qui joue à Laval. Alex Surprenant qui joue à Saint-Jean, qui joue à Laval. Puis j'ai eu le même chemin aussi. Puis ben moi, j'ai amené ce chandail-là, puis je l'avais comme mis sur un support. Puis c'est mes gérants d'équipement qui, un matin, m'avaient fait une surprise. Là, ils m'ont acheté un beau cadre comme ça, puis ils l'ont installé. Fait que c'est ça la petite histoire en arrière de mon chandail là, de finissant, ouais.
Aïe, aïe, OK. Ouais. Quand même très, très, très cool. Un beau, beau geste. C'est vrai que c'est un beau souvenir. Là. Surtout que un passage au cégep, c'est un passage qui, tu sais, je pense, qui marque plusieurs athlètes. Là. Parce que c'est très différent de l'université. Ouais. Si t'es familier avec le podcast, tu sais que chaque personne a le droit à une intro.
Ouais.
JP, voici ton introduction. Jean-Philippe Bégin, t'es coach en chef des géants du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. T'es originaire de Valleyfield. Comme joueur au cégep, t'es allé remporter deux bols d'or avec les volontaires du cégep de Sherbrooke en 2008 et 2009. En 2010, tu te joins aux géants du cégep de Saint-Jean. De 2012 à 2015, tu rejoins l'Université Laval, avec lesquelles tu vas gagner deux Coupes Vanier. Tu as gradué de l'université avec un bac en éducation physique, excuse-moi, et un certificat en psychologie. Tout fraîchement sorti de l'université, tu retournes aux sources à Valleyfield de 2016 à 2018. Tu vas coacher les Noirs et Or du collège de Valleyfield, avec lesquels tu vas avoir plusieurs rôles importants, dont coordinateur défensif. Aujourd'hui, tu es le coach en chef depuis 2019 des Géants de Saint-Jean. JP, bienvenue sur La Game On. C'est un plaisir de te recevoir. J'aime ça commencer avec cette question-là pour donner du background le plus possible à mes invités. J'ai pas rien trouvé sur ta carrière de foot, sur la personne que tu étais avant Saint-Jean, en fait.
Ouais.
D'où ça a parti, toi, le football, cette passion-là? J'aimerais t'entendre là-dessus.
En fait, comme beaucoup de jeunes de mon âge, puis encore aujourd'hui, j'étais un joueur de hockey. J'ai joué au hockey jusqu'à jusqu'en secondaire 5. Puis à un moment donné, dans mon parcours au hockey, on m'a demandé de faire un choix. Il fallait que je change d'école si je voulais continuer à jouer midget espoir. Puis pendant ce temps-là, moi, dans mes cours d'art, puis dans mes cours de français, dans mes cahiers de notes, ben je dessinais des jeux. J'étais un fan fini de Madden, puis j'écoutais ça la fin de semaine, mais jamais je m'étais lancé dans cette expérience-là, parce que pour moi, c'est le hockey qui est important. Mais je tripais beaucoup, beaucoup sur la création. Puis tu sais, je dessinais des jeux à 11, là, parce que pour moi, le foot, c'était à Madden, ben il était 11 joueurs, puis je connaissais plus ou moins les règles de joueurs éligibles, des joueurs, tu sais, les nombres de joueurs sur la ligne, et ainsi de suite, mais je dessinais des jeux pour dessiner des jeux. J'ai brûlé une télé plasma à force de jouer à Madden, parce que quand tu as les logos trop longtemps installés, ben quand on écoutait quoi que ce soit, ben, on voyait EA Sports dans le coin à gauche et tout. Puis quand que j'ai fait le choix de, dans le fond, lâcher un peu plus le hockey compétitif, dans le fond, au Collège Bourget-Rigaud, j'ai décidé de commencer à jouer au foot en secondaire 4. Puis ça a bien été, tu sais, j'étais quand même un gars qui physiquement, à pareil âge, j'étais quand même assez mature physiquement. Donc, j'ai fait le Challenge Wilson ma première année. On a gagné la finale provinciale contre Beauce. C'était un match épique. Puis ma deuxième année de foot dans ma vie, j'ai fait Team Québec en 2008. À ce
Aïe.
moment-là, c'était pas les mêmes âges qu'aujourd'hui, là. Mais dans le fond, j'ai gagné le championnat U17 national qui était fait à Sherbrooke à ce moment-là. Puis je veux dire, avoir eu rapidement du succès dans tout ça, j'ai dit, bon, man, peut-être que le foot est fait pour moi. Fait que c'est un peu comme ça que le foot est né, là. À jouer à Madden, à écouter le foot la fin de semaine, puis avoir une deuxième passion, on the side, je pourrais dire, là, à part le hockey. Fait que ça part un peu de là, ouais.
L'affaire qui est vraiment cool, c'est que t'as été un gros fan de football avant même d'avoir mis le pied sur un terrain. C'est ça qui est spécial. T'sais, moi, perso, j'ai commencé le foot, j'avais 8 ans. Fait que je gamais pas à Madden à 8 ans. Ça me tentait plus de jouer au soccer. Puis mon voisin, qui était plus vieux que moi, ben justement, il jouait au football au Baron dans le temps du séminaire de Sherbrooke. Puis il me donnait la piqûre. Fait que je me suis inscrit direct. T'sais. Fait que, tu vois, c'est quand même cool que tu amènes ce côté-là. C'est comme tout un joueur de hockey, mais jouer à Madden, c'est
Ouais, exact.
vraiment
Ouais,
ça
non, c'est
coche.
ça.
Est-ce que
Ouais.
tu as fait Team Québec en 2008? C'est
Huit.
la même année que tu t'es joint au Cégep de Sherbrooke, de ce
Exact.
que je comprends.
Exact.
Tu as eu back-to-back Bol d'Or. La question que j'ai pour toi à propos de ces back-to-back-là, c'est quoi que ça prend pour avoir une équipe championne au niveau collégial?
C'est une très bonne question. Je pense que ça a changé beaucoup depuis mes années comme joueur. T'sais, si tu m'avais posé la question en 2008, j'aurais même pas su quoi te dire, là. Je savais que les volontaires, c'était une bonne équipe. T'sais, Jean-Benoît Jubainville avait un super beau groupe de coaching staff. Lui-même était une personne exceptionnelle puis que je respecte beaucoup encore toujours. À ce moment-là, les limites d'âge n'étaient pas nécessairement les mêmes. Tu avais le droit de jouer jusqu'à 22 ans, si je me trompe pas. Puis je pense que t'sais, c'était peut-être plus que tu avais de gars nécessairement un vieux, ça marchait. Tu sais, d'avoir une bonne pépinière locale, encore une fois, c'est important. Puis tu sais, on parle en 2025, bientôt 20 ans plus tard. Tu sais, je pense que oui, le recrutement est encore là. C'est ultra important. Je pense qu'il y a aussi le développement, il y a le suivi académique, puis tu sais, de faire en sorte que comme programme, tu es complet, tu sais. Mais tout va passer par le recrutement plus qu'avant, parce que je pense que c'est un. Tu sais, je veux dire, je prends mon exemple. J'ai fait Équipe Québec en 2008, puis il y avait quatre cégeps qui me recrutaient. Maintenant, aujourd'hui, un jeune qui va faire avec Québec, probablement qu'il va en avoir 30 cégeps qui vont le recruter. Tu sais, fait que la job, c'est beaucoup, beaucoup professionnalisé. On est au courant un peu de qu'est-ce qui se passe partout dans la province, même ailleurs dans les provinces francophones. Fait que ça va partir de là, je pense, d'avoir un recrutement qui est solide, qui est béton, d'avoir des bons contacts, des bonnes références à gauche et à droite. Puis après ça, mais c'est ce que tu fais avec les gars qui sont à l'intérieur de ton programme. Tu sais, je veux dire, tu peux avoir un gars qui a 16-17 ans, est mature physiquement, a dominé le juvénile ou le football midget. Et si sur 3-4 ans, c'est la même personne, il se développe pas autant comme athlète que comme personne, ben à ce moment-là, tu vas pas chercher le plein potentiel de ton organisation. Puis on l'a vécu un petit peu comme organisation l'année passée, en 2024. Je pense que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui parlaient avec Saint-Jean suite à la saison 2023, voyant l'organisation qu'on avait, plusieurs nous voyaient peut-être même candidats à atteindre la finale du Bol d'Or. Et la vie, des fois, c'est une question de timing, puis quand que les blessures commencent à rentrer en compte, ben là, ça vient changer des fois le portrait. Fait que, tu sais, je pense que oui, il y a le recrutement, oui, il y a le développement, mais il y a une question aussi de timing, puis un peu de chance aussi dans quand une équipe peut atteindre le championnat puis devenir une équipe comme une dynastie, là, je pourrais dire. Là.
Mm-hmm.
Fait que, ouais.
Surtout que, tu sais, l'année passée, puis je te dirais, tu sais, vous avez eu quelques, tu sais, rough saisons, là, mettons, dans les trois dernières années, mais...
Ouais.
Vous êtes le genre d'équipe, par contre, qu'on ne pouvait jamais prendre à la légère quand même, parce que vous êtes quand même dans un game. Ça arrive d'en échapper. On en échappe tous des games, tu sais.
Ouais.
Mais moi, un matin, genre, je m'amusais un peu là-dessus. J'étais allé voir sur RSEQ, puis j'ai regardé tous les records jusqu'à des années que tu jouais, justement. Puis,
ouais.
Tu sais, Saint-Jean a toujours donné des super de bons matchs, là. En tout cas, dans les scores finales, vous êtes tout le temps proche. Fait que c'est... maintenant, c'est qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement peut-être essayer de finir ou justement le côté chance aussi. Il y a ce côté-là qu'on ne contrôle pas justement, c'est de la chance,
ouais.
Mais qu'est-ce qu'on peut contrôler pour justement améliorer ça? C'est ça qui peut être intéressant c'est un peu dans votre cas. Justement, ouais. En parlant de ça, en 2010, quand tu as joint Saint-Jean, ma première question, c'est pourquoi tu as décidé de quitter Sherbrooke pour aller à Saint-Jean?
Ouais, c'est une bonne question. Moi, à Sherbrooke, je suis en technique policière.
C'est
quelque chose qui m'intéressait. Puis, je suis un an plus jeune, moi, dans mon année scolaire. Donc, je suis rentré au cégep à 16 ans. Puis, je te dirais que partir de chez nous pendant 2 ans, j'étais à 2h30 de la maison à ce moment-là. Puis, je l'avais quand même trouvé assez difficile. Puis j'ai voulu me rapprocher un petit peu de la maison. J'ai fait une session au cégep de Valleyfield avant de m'en venir au cégep à Saint-Jean. Mais je te dirais qu'une des grosses raisons pourquoi j'ai décidé de venir à Saint-Jean, c'est que, un, je voulais rester en Division 2 à l'époque. C'était une super belle ligue. Puis j'avais une super belle confiance en Alex Vendette qui m'avait coaché à Team Québec. Puis j'avais vraiment développé des liens avec ce coach-là qui venait toucher des valeurs que j'avais à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que j'ai comme coupé le chemin en deux. Fait que j'étais pas encore à la maison, mais c'était plus facile pour moi de revenir la fin de semaine. Puis j'étais avec quelqu'un que je connaissais bien déjà là, depuis quelques années. Donc c'est ce qui m'a amené un peu à Saint-Jean.
That's it. Ouais. Est-ce que tu penses, mettons que tu avais à expliquer à un joueur justement qui voudrait venir à Saint-Jean, tu lui dirais quoi, pour le faire venir? Comme, tu sais, parce que tu t'es pas fait vraiment recruter, est-ce que je comprends? Tu as plus voulu venir à Saint-Jean?
Ouais, exact. T'sais, j'ai transféré, là. J'ai été un transfert, moi, d'une organisation. Donc, je sais c'est quoi quand que t'es malheureux en quelque part, mm-hmm. Que t'as besoin de combler peut-être quelque chose que t'as pas dans certaines organisations. Puis c'est ça. Je veux dire, la preuve, ils ont gagné le Bol d'Or l'année suivante. Puis il y avait des choses que moi je voulais aller vivre ailleurs. Je pense que ce que Saint-Jean était en 2009 puisque Saint-Jean est en 2025, c'est complètement différent. Je veux dire, en 2009, il y avait même pas de coach à temps plein. Maintenant, on a 3 personnes à temps plein dans l'école. Tu sais, au niveau suivi académique, on est complètement ailleurs de ce qu'on avait. Je veux dire, en termes d'installation sportive, on a un partenariat, dans le fond, pour ceux qui connaissent pas Saint-Jean, là, le cégep de Saint-Jean, puis la base militaire, c'est comme un immense terrain qui est coupé par l'aéroport de Saint-Jean.
On a
le luxe de pouvoir s'entraîner dans les installations des militaires, qui sont des plusieurs millions de dollars, chose qu'avant, on n'avait pas. Tu sais, il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années. Le cégep a décidé de mettre de l'avant un peu son équipe de football, là, sans dénigrer les autres, puis de l'utiliser un peu plus comme locomotive. C'est un programme qui fête son 56e anniversaire cette année. Donc, il y a eu beaucoup de gens d'affaires, des gens de la région qui ont voulu s'impliquer pour faire justement grandir le programme en 2009 puis 2025. Mais, tu sais, si je peux répondre à ta question de qu'est-ce que je dirais à un jeune, pourquoi venir à Saint-Jean? Ben, un, c'est de pas nécessairement vivre qu'est-ce qui se passe en ville parce qu'on est un cégep de région. Puis ça, c'est fait pour certaines personnes de pas nécessairement être dans un cégep, dans une grande agglomération. Mais je pense que c'est aussi d'oser aller faire la différence peut-être dans un programme, tu sais. C'est de voir, oui, il y a des bonnes saisons, on va dire qu'on manque de constance, mais est-ce que toi, tu sais, ça te tente de faire une différence dans une organisation, tu sais? Est-ce que ça te tente d'avoir un impact? Est-ce que tu as envie d'avoir un rôle qu'on va se rappeler de toi plus tard parce que tu as été faire la différence en quelque part? Parce que c'est ça, tu sais, on est, je pense, à une peut-être cour de recrutement de commencer à se dire qu'on est compétitif année après année. Parce que oui, on a manqué de constance dans les dernières années, mais ça reste que, comme tu as dit tantôt, on n'est jamais bien loin. T'sais. Puis si je pense à 2023, puis 2024, puis 2023, le dernier match qu'on avait joué contre Lennox, ça a fini running time. Puis l'année passée, on a fini en troisième période de prolongation. Fait que c'est comment que d'année en année, ça peut aller super vite, puis que ça peut être une question de cohorte. Bref, non, je pense qu'on a un super de beau produit, un cégep qui croit en nous, une ville qui croit en nous, puis ça fait des petits.
L'affaire qui est le fun, comment tu l'as apporté? Du fait de, si tu veux venir faire la différence, je pense qu'une chose qui est vraiment importante, je pense, puis ça c'est vraiment prouvé, c'est les gens, tu sais, je parle d'être humain, on est fait socialement, on est un fait que le fait d'avoir l'impression de faire partie de quelque chose, c'est le meilleur feeling que tu peux pas avoir. Fait que faire la différence, est-ce que vous voulez faire la différence? C'est plus la question que je demanderais, mais c'est... non, j'ai aimé ça, comment tu l'amènes. Puis aussi, tu me diras si je me trompe, mais Saint-Jean peut être un cégep, peut être une équipe de foot, où est-ce que quand tu sors des rangs secondaires, où est-ce que tu peux justement avoir un impact très rapidement sur l'équipe, justement.
T'sais, ça va rester qu'on est un cégep de division 1.
Exact.
Parce que on se fait des fois poser la question dans le recrutement comme parent, est-ce que mon jeune va jouer s'il vient ici? T'sais? Puis là, je vais parler pour tous les cégeps au Québec. Il y a une énorme différence entre une maturité physique d'un jeune de 15-16 ans et une maturité physique d'un gars de 20-21 ans. Et l'exemple que je donne toujours dans le recrutement, c'est si toi, comme disait de t'aligner en one-on-one dans une pratique contre un jeune qui est en secondaire 2 dans la même école que toi. Qu'est-ce que tu dirais à ton coach? Tu dirais, coach, je vois en long, tu sais, je veux dire, c'est même pas juste. Mm-hmm. OK, parfait. Qu'est-ce que tu dirais si je t'aligne contre un gars de secondaire 3? Ben, peut-être qu'il va te donner un peu plus de challenge, mais la réalité, c'est que tu risques d'avoir quand même une différence parce qu'au niveau physique, t'es plus vieux que lui, tu sais. C'est la même chose rendu au cégep. T'sais. Oui, il va avoir des très bons joueurs de 16-17 ans qui va arriver au cégep qui va avoir un impact tout de suite. Ils sont rares, surtout en division 1. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une énorme marge de manœuvre entre une maturité physique quand tu arrives à 20-21 ans. Puis la preuve, ben les équipes qui gagnent les championnats, ben c'est souvent des équipes où c'est pas beaucoup de recrues qui sont sur le terrain. C'est des gars qui sont des 3e, des 4e années, qui ont passé au travers d'un processus de préparation physique pendant 3-4 ans dans une organisation qui met de l'argent. Bref, est-ce qu'un jeune qui décide de venir à Saint-Jean va avoir plus de chances de jouer qu'ailleurs en division 1? Peut-être pas nécessairement, mais est-ce que le défi est différent? 100%.
T'sais. Exact.
100%, puis c'est un défi qui, comme je disais tantôt, ça tente toi de faire une différence, puis que t'as envie de répondre à un défi, que de faire en sorte que tu mets ce programme-là un peu plus sur la map en D1. Ben, c'est complètement différent que peut-être d'aller en quelque part puis de suite de dire, ben, moi, je m'en vais gagner là-bas, peu importe le rôle que je vais avoir, tu sais. Mm-hmm. Fait que, c'est ça. Ça suit.
Exact. À suivre. Ouais. Mais justement, Saint-Jean, va falloir rester jusqu'à la fin pour en reparler, mais on va en reparler de Saint-Jean, c'est sûr. Je me suis gardé plein de questions pour juste Saint-Jean. Maintenant, tu as choisi Laval en sortant de Saint-Jean? Tu as regagné deux Coupes Vanier avec eux. Est-ce que dans ces deux Coupes Vanier, c'est sûr qu'il doit y avoir des histoires qui t'ont marqué. Moi, ces histoires de championnat-là, moi, je trouve ça hyper intéressant d'en parler.
Ouais.
Est-ce que, vite de même, tu en as des choses qui t'ont marqué? C'est pas juste d'être nécessairement du championnat, mais ça peut être aussi tes années à Laval un peu.
Ouais.
Peut-être de quoi qui t'a marqué, que tu as appris de ça, ou juste une expérience qui était juste vraiment cool.
Ouais. C'est certain que, tu sais, de gagner rapidement, ma première, ma deuxième année universitaire, tu gagnes deux championnats back-to-back. Je vais toujours dire que j'ai trouvé que j'étais trop jeune pour vraiment vivre à 100% ce que c'était et ce que ça représentait pour les plus vieux. Tu sais, il y a des gars qui venaient de perdre en 2011 contre McMaster en Colombie-Britannique, puis l'année d'après, ils ont la chance d'y rejouer avec le même carrière de l'autre côté, qui était Cal Quinlan, qui était un carrière exceptionnel. T'sais, moi, je l'avais pas vraiment nécessairement vécu, cette rivalité-là, l'année d'avant, puis toute la phase émotive qui venait avec ce match-là. Fait que les histoires qui vont me marquer, ben je vais tout de suite te parler de la Coupe Vanier 2012 à Toronto, dans un environnement que, t'sais, je peux pas dire que dans ma vie, j'ai vu un environnement aussi hostile que ça pour des étudiants à club de 20 à 25 ans, quand que il y a une phase au niveau de... Je pense que les francophones étaient très, très, très... je vais dire... très peu apprécié dans cet environnement-là, je vais dire ça comme ça, puis on l'a senti de la part des plus que 35 000, 40 000 personnes qui étaient là, puis c'est de la façon que le match s'est joué, tu sais, je repense encore au game plan des deux côtés du ballon, tu sais, puis moi, c'est ce qui m'avait marqué, c'est de vivre ça pour la première fois, ma première année au niveau universitaire, c'est de vivre le summum d'une rivalité entre deux équipes qui se sont affrontées l'année d'avant, puis de voir qu'est-ce que ça représentait pour les vétérans, tu sais. Fait que ça, c'est le premier souvenir que j'ai à te parler. C'est certain que l'année d'après, la Coupe Vanier en 2013 à Québec, chez nous, tu sais, contre Calgary, il faisait froid, c'était plein. Je me rappelle encore des hélicoptères qui étaient passés par là sur le terrain, tu sais. Ça avait été un match, encore une fois, des deux côtés du ballon, super bien géré par les deux coordonnateurs de Laval, puis c'est des souvenirs qui sont très, très marquants, mais en même temps, comme que je dis, j'étais encore trop jeune. T'sais. On dirait que j'étais arrivé, on a gagné. T'sais. Puis le souvenir peut-être qui me vient le plus en tête, c'est la résilience de ce programme-là en 2015. Parce qu'on venait de perdre pour la première fois une Coupe d'un du mois en 2014 contre une équipe loadée des Carabins de l'Université de Montréal. T'sais, autant que tu gagnes deux Coupes Vanier back-to-back, 2012-2013. 2014, tout le monde parle de quoi? Ben, d'un three-peat. C'est la première fois qu'une équipe pourrait gagner un. Mais moi, ce qui va me marquer, c'est comment en 2015, pendant cet hiver-là, cette équipe, t'sais, le groupe de coaching staff, les joueurs, comment on a travaillé pour faire en sorte que ben ça soit pas nécessairement le même scénario l'année suivante. Mm-hmm. Story is, ça a été le même scénario, puis on a perdu la Dunsmore en 2015 quand même contre Montréal. Mais c'est des souvenirs que je vois le processus, le travail qui a été fait, parce que là, j'étais plus vieux. T'sais, je voyais nécessairement comme vétéran c'était quoi la place que je prenais dans l'organisation avec les plus jeunes, de pas revivre les mêmes erreurs que les années l'année précédente. Bref, fait que c'est des je te dirais ces trois petits moments-là là, marquants qui me viennent plus en tête de l'université.
T'as joué, t'as gagné le bol d'or avec Guillaume Bourassa, hein? Pas le bol d'or, la Coupe Vanier, excuse-moi.
Ouais. Ouais, dans le fond, Guillaume, on a joué ensemble, si je me trompe pas, lui a gradué en 2014.
Ouais, ça se peut.
Fait que, ouais, on a joué ensemble 3 ans.
Parce qu'il m'a parlé justement, quand il était venu sur le podcast, il m'avait demandé, il m'avait pas demandé, il m'avait dit que quand vous étiez arrivé à Toronto, il était écrit French second language.
Second language, ouais, Laval second place.
Puis ça a l'air.
Puis je te dis, cette affiche-là, là, c'était plus gros qu'un. C'était immense, là.
Oh,
c'était immense,
ouais.
Là. Oh, ouais, c'était immense, là. Puis vous marquez, je suis convaincu, Google, Coupe Vanier 2012, Laval McMaster, puis je suis convaincu qu'une des premières images qui va sortir, c'était cette vision-là emblématique de voir l'Université Laval avec Raymond Veillette qui tient le drapeau. Puis ben le gros drapeau là, qui était à notre gauche, là, comme si on n'était vraiment pas la bienvenue. Puis cette année-là, on ne saura jamais, mais dans le fond, on est arrivé, tu me trompes pas, le mardi à Toronto pour avoir notre semaine de préparation là-bas. Puis notre première, dans le fond, c'est dans les années où il y avait la Coupe Vanier puis la Coupe Grey dans la même fin de semaine, dans la même ville. Mmh. Fait qu'on devait partager les terrains, les vestiaires avec les équipes des professionnels, ce qui faisait en sorte que pour nos terrains de pratique, on n'avait pas toujours les bonnes heures. T'sais. Puis le premier matin qu'on pratiquait à Toronto, c'était à 7h le matin. Là. Fait que, on venait de se faire une ride de bus, quand même assez épique. Puis en plein milieu de la nuit à Toronto, l'alarme de feu sonne. Puis ça donne que la seule équipe qui n'est pas encore arrivée dans l'hôtel, c'est McMaster. Puis on dirait à partir de ce moment-là, tout le monde s'est comme dit, OK, ils veulent vraiment, tu sais, ils vont tout faire pour nous déranger cette semaine-là, tu sais, de partir l'arme de feu en pleine nuit pour jusqu'au match, jusqu'on sentait qu'on n'était vraiment pas apprécié dans cette ville-là. Mais ça a été une super belle année. Ouais.
Aïe! Ouais. Ouais. Ça, c'est quand même fou. Hein? On le saura jamais. Ouais. On va laisser trois petits points à ça. Mais aïe, imagine. Ça serait quand même pas pire comme histoire. Ouais. J'adore. Le coaching est venu quand même assez rapidement dans ta vie. Moi, la question que je me demande, ma first, est-ce que tu coachais quand tu jouais en même temps à Laval?
Ouais, j'ai toujours voulu leur donner un coup de main. C'est certain qu'avec le bac en éducation physique, j'avais des stages qui me permettaient de pouvoir déjà commencer à coacher en Seigneurette, à la Courville-Oise, entre autres. J'ai une famille, ma mère est enseignante, mon père est intervenant en centre jeunesse. Ça a toujours été important chez nous, on dirait, d'ordonner, puis d'être impliqué, puis de faire peut-être une différence. C'est des valeurs qui étaient à la maison. C'est un peu pour ça que pourquoi j'étais en enseignement, tu sais, c'était de me dire, ben, si le coaching marche pas, parce que le plan c'était de coacher, ben au moins, tu sais, je vais pouvoir peut-être avoir une vocation différente pour avoir un impact sur des jeunes, puis en termes de les habitudes de vie. Mais non, c'est ça. Fait, j'ai commencé à coacher tout de suite à l'université, puis c'était un peu ça qui m'a ouvert les portes à Valleyfield. C'est qu'il y avait un ancien Université Laval qui est un gars de Valleyfield également, Maxime Berubé, qui est un responsable des sports à Bourget présentement. Puis sachant que j'étais pour terminer ma carrière puis pas nécessairement vouloir essayer ma shot au niveau professionnel, c'est lui qui m'a donné une opportunité de commencer à m'impliquer avec le Noir et Or de Valleyfield pendant que j'étais à l'Université Laval. Fait que je m'occupais de la préparation physique pendant mes dernières années au Rouge et Or avec le Noir et Or. Puis ça a été mes premières expériences avec l'équipe. Puis en 2016, on a réussi à créer le poste que tout de suite, dans le fond, au printemps que je terminais mon bac, ben j'ai eu l'opportunité de pouvoir commencer à coacher au Noir et Or, là. Fait que ça s'est fait très, très vite, là, le processus, parce que j'avais déjà un pied dans la place.
Ouais. OK, vraiment sick pour elle. Je tiens à souligner quand même que vous avez été champion du Bol d'Or en plus dans tes années 2017-2018. Exact.
Deux Bol d'Or comme coach également. C'était des matchs contre John Abbott, là, une belle rivalité avec beaucoup, beaucoup de talent du côté de John Abbott. Puis non, c'était encore là, j'ai commencé ma carrière de coach en gagnant, tu sais. C'était autant, je suis arrivé à Sherbrooke, première, deuxième année collégiale, je gagne deux championnats, j'arrive universitaire, première, deuxième année, je gagne des championnats, puis j'arrive au niveau collégial, je commence à coacher, puis je gagne deux championnats dans trois ans, tu sais. Mm-hmm. Puis tu sais, là, j'y ai comme entraîneur, puis je vois de plus en plus qu'est-ce qu'il faut pour être une équipe de championnat, tu sais. Puis oui, j'ai été super choyé d'avoir des bons athlètes, des bons groupes d'entraîneurs qui ont été avec moi depuis les 15-17 dernières années. Mm-hmm. Mais là, maintenant, c'est ça. C'est de réussir à aller chercher les morceaux à gauche pas à droite, puis de réussir à faire la même recette ou presque à Saint-Jean.
Mm-hmm. Ben, tu sais, l'affaire qui est quand même c'est intéressant de regarder, c'est que tu as eu du succès assez rapidement dans ta carrière. Maintenant, tu es à Saint-Jean. Comment tu réponds, en fait, à l'adversité? Parce que tu ne veux pas... Tu es arrivé à Saint-Jean où est-ce que... mettons, si on parle de quand toi, tu étais à Saint-Jean, les années, tu l'as dit, c'était des hauts, des bas, on était tout le temps proche de gagner, on aurait pu être des contenders. Comment que toi, tu réponds à ça? T'sais? Parce que tu as toujours vécu dans de la victoire.
Les personnes proches de moi vont toujours dire que je suis une personne extrêmement compétitive. Je déteste perdre. Il y a une phrase que j'ai déjà entendue et qui m'a collé, c'est je déteste plus perdre que j'aime gagner, je pense. Puis ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que après deux bols d'or, deux championnats en 2017-2018, de prendre la job ici en 2019 comme entraîneur en chef, puis de voir un peu le travail qu'il y avait à faire pour devenir une équipe de championnat à Saint-Jean, j'ai beaucoup, beaucoup fait de travail sur moi-même, tu sais, en 2019, ma première saison comme entraîneur en chef. 2020, ça a été la COVID, fait que j'ai appris d'autres choses de mon travail de gestionnaire.
Ouais.
Mais comment qu'on vit avec ça, c'est ce qui me drive au jour le jour, tu sais. Ce que je vais dire aux gars, c'est comme preuve de leadership, je vais être un leader, oui, des fois vocal, parce que c'est mon rôle comme entraîneur en chef, mais aussi par l'exemple. Je vais vouloir être le premier à arriver au bureau le matin, la dernière partie du soir. Je suis un gars qui travaille extrêmement fort. J'essaie de trouver un équilibre à travers de tout ça, mais sans dire que c'est maladif. Je suis une personne extrêmement compétitive, puis il y a quelque chose que je vais accomplir ici à Saint-Jean. Puis ça, pour moi, c'est de gagner, tu sais. Puis je vais tout faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai appris de mes anciens entraîneurs, de ma carrière de joueur, de ma carrière de coach, pour faire en sorte qu'éventuellement, ce programme-là, je pense, regagne ses notes de noblesse. Parce qu'il ne faut pas oublier que Saint-Jean, dans les années 90, ça a été une dynastie au Québec.
Ouais.
Je veux dire, c'est 11 championnats provinciaux pour les gens de Saint-Jean, pour les têtes grises, que je vais dire poliment. Saint-Jean, ça a été une région où le football est extrêmement fort dans des années. T'sais. Puis là, ben, j'ai un côté de moi très, très compétitif en dedans de moi. Puis comment que je deal avec ça? Ben, je vais être bien honnête. Des fois, j'ai bien de la misère à dealer encore avec le fait de pas avoir une équipe qui gagne à chaque année. Je sais que c'est impossible. Mais je travaille très fort pour faire en sorte qu'on l'aille là-bas.
J'aime ça, encore une fois, de la façon comment tu l'amènes. C'est une motivation, c'est qu'est-ce qui te lève le matin à aller pousser encore plus puis être le premier au bureau. C'est le genre de truc que, justement, quand tu es un joueur puis que tu vois ça, tu laisses le record de côté puis tu te concentres vraiment sur quel genre d'équipe, quel genre de coach, quel genre de place que j'ai envie d'être. T'sais. Parce que, t'sais, oui, c'est le fun de gagner, t'sais, mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est le bon fit pour toi ou c'est ça, tu sais, c'est de faut que tu joues à une place que tu te sens confortable de jouer. Mais non, j'aime ça la façon comment tu l'as amené, c'est vrai. JP, j'ai vu, ben t'as fait Prélude, le podcast de Prélude. Ouais. Puis j'ai vu que dans l'entrevue, en fait, vous aviez parlé un peu, en fait, tu partageais un peu comment qu'on pourrait peut-être faire évoluer le football au Québec. Parce que tu disais que, bon, les coachs, tu sais, ils ont un peu peur de partager un peu l'information parce que, bon, ben, tu sais, toi, tu connais tel coach qui pourrait peut-être copier ce que moi je fais, nanana. Puis, il y a une chose que tu as dit, par contre, dans l'entrevue que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que tu disais, tu sais, mettons que je te montre mon cover 2, mettons. Puis, que l'année d'après, CNDF joue le même cover 2, mettons. Ben, tu sais, c'est ma job en tant que coach de m'assurer de ben, mieux le jouer ou de le tweaker de des façons qui soient différentes de ce que moi j'y ai montré. Parce que tu veux pas, c'est dans le partage de ces informations-là, tu sais, qu'est-ce que tu peux apprendre des autres? Moi, je trouve ça hyper important. Puis j'aimais ça comment tu l'as amené. Maintenant, toi comme coach, comment tu t'y prends pour faire évoluer ton staff ou inspirer les coachs qui sont autour de toi pour être plus ouverts, mettons, au partage ou... Tu sais, mettons qu'on commence plus à l'interne de votre organisation. Comment tu t'organises pour justement amener ton organisation où est-ce que tu veux aller?
C'est une très bonne question. À l'interne, c'est certain que... C'est ça, je remercie le Cégep. On a un super beau budget pour la formation continue. T'sais. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement... On n'a pas de... bâton dans les roues quand vient le temps de vouloir aller faire une formation aux États-Unis ou de faire du kilométrage, pas aller s'asseoir avec des coachs universitaires ou je pense que l'important au niveau du coaching, c'est d'avoir son réseau. T'sais. C'est facile à un moment donné de se perdre puis de toujours mettre en question un petit peu ton identité puis de OK, ben eux font ça, fait qu'il faut que je fasse ça. T'sais. Mais quand tu as ton identité à un moment donné, puis que tu sais un peu qu'est-ce que tu veux faire, ben là, après ça, ben je pense que c'est d'aller sélectionner une partie des informations qui vont peut-être amener un morceau du puzzle qui manque à ton système défensif, par exemple. Puis ça, je pense qu'à l'interne, c'est quelque chose qu'on fait bien. Puis tu sais, j'ai un jeune coaching staff, puis les gars, ils ont leur réseau. Puis c'est important pour nous de, tu sais, j'en parlais avec Gustave Sylvestre, qui est mon adjoint, puis on parlait d'un run scheme la semaine dernière, puis au niveau de finaliser les installations pour le camp d'entraînement, tu sais, il y avait une partie là qui manquait. Puis, ben, Gustave étant un ancien des Carabins, que je coachais également aux Carabins, ben, ça a été super facile de dire, ben, t'en as-tu parlé à Mathieu Pronovost, tu sais. Puis, je veux dire, il a pris le téléphone, puis 3 heures après, il y avait une discussion avec Matt. Pourquoi? Parce que, tu sais, il faut pas être gêné, tu sais, de poser des questions, puis je vais l'amener à un niveau où, ben, nous, comme à Saint-Jean, on essaie de s'impliquer avec la structure qui est en dessous de nous, tu sais. On a une structure civile, je m'excuse, qui va bien, on a des bons nombres au niveau atome, puis oui, ainsi de suite. Je pense que c'est d'ouvrir nos portes à ces programmes-là, puis leur dire, comme, venez nous voir, là, ça va nous faire plaisir. T'sais, nous, on le fait avec des programmes universitaires, on a des échanges à des fois avec même d'autres programmes collégiaux, parce que, tu sais, nous, on ose aller cogner à la porte. Mm-hmm. Ben, c'est un peu versé au ce que je l'emmenais avec Prélude, t'sais. C'est que des fois, il y a pas à avoir une gêne, il n'y a pas à avoir de l'orgueil, tu sais. Je veux dire, c'est quoi d'aller demander de l'aide pour faire en sorte que, ben, peut-être que ton Cover One que tu roulais en 1988 avec tes yeux vers le corps arrière, puis tu n'avais aucune idée ce que ton receveur faisait, ben peut-être que le Cover One en 2025, ben je vais te parler d'un bracket qui va faire en sorte qu'on va être 2-1. Puis avec des lectures où ce que tes run fits avec ta boîte, ben ça fit bien plus que ce que tu faisais en 88. Mm-hmm. Puis c'est comme ça qu'on va faire grandir notre football au Québec. Puis je pense que ben on se compare aux autres provinces, puis on le voit comment nos systèmes sont bien développés. Mais encore là, tu sais, il y a pas de gêne à avoir, tu sais, dans notre société, puis c'est pas une question d'orgueil, c'est au contraire, c'est une question de fierté de te voir toi grandir comme organisation, puis ultimement tu fais ça pour les kids, t'sais.
Exact.
Fait que, bref, c'est vers là où je m'en allais avec les boys de Prélude, que je salue d'ailleurs.
Yeah. Ben moi aussi je les salue, tant qu'à être là. Mais tu vois, moi je m'en allais justement avec là, ma prochaine question était, est-ce que tu penses que ça nuit un peu à certains développements d'athlètes? Justement, parce que, tu sais, c'est indirect, tu sais, un peu le, mettons, le, sur comment, tu sais, je parle, c'est pas eux qui vont aller voir les autres coachs pour s'informer, parce que, tu sais, eux, ils vont se fier à vous, ils vont prendre le scheme que vous leur donnez, c'est vous qui prenez l'information, mais en même temps, pour les joueurs qui veulent aller plus loin, qui veulent en apprendre un peu plus, est-ce que tu penses que des fois, ça pourrait permettre aux athlètes de mieux se développer pour ben, aller jouer au prochain niveau ou juste ben, peut-être un jour devenir coach ou, tu sais, ouais. Veux, veux pas, on crée la prochaine génération d'humains, d'hommes.
Oui, 100%. C'est un peu ce qu'on voit avec les structures de sport-études, de sport-excellence, ouais. Quoi que ce soit. C'est des programmes qui, justement, ont beaucoup de temps le jour avec leurs étudiants athlètes pour faire de l'extra qu'ils n'auront pas à faire en parascolaire. Chose qui, dans le passé, ben c'est pas compliqué, là. Tu voulais jouer au foot, tu voulais jouer au hockey, peu importe le sport que tu faisais, ben tout se faisait en parascolaire, tu sais. Mais tu sais, je pense que oui, c'est certain que on est dépendant de ces méga structures là, tu sais. Je pense à des commissions scolaires, je pense à peut-être à des écoles privées qui osent pas, tu sais, qui osent pas aller mettre de l'argent ou de dire, ah, ben, si on a toujours fait ça. Ouais, mais si on a toujours fait ça, on n'aura pas nécessairement de changement, tu sais. Puis, exact. Je veux dire, des périodes de sport excellence, des périodes de sport études, ça existait à peine il y a 20 ans, tu sais. Puis là, on est 20 ans plus tard, puis on voit les programmes sportifs qui ont pris tellement de place. Ben, certain, là, qu'il y a des affaires de transfert qu'il faut régler, puis il faut faire attention à comment qu'on travaille, tu sais, entre organisations, puis ben, ça a créé une compétition parce que là, tout le monde essaie d'être meilleur que tout le monde, mais moi, je reviens à la base du problème, c'est que comme commission scolaire, comme ministère, je veux dire, il y a des étudiants athlètes, il y a des sportifs qui demandent que ça d'avoir du temps de terrain, qui demandent que ça d'avoir des installations, qui demandent que ça d'avoir un intervenant dans l'école qui va les raccrocher à peut-être des cours qui sont pas intéressants pour eux autres. Puis je suis convaincu qu'on ferait un sondage un matin du nombre d'étudiants athlètes, de monde de sportifs qui ont été universitaires, puis ce qui les a drivés, c'était leur sport, puis pas nécessairement leur académique. Puis aujourd'hui, ben c'est des employeurs, c'est des employés qui ont du succès, puis ce qu'ils rapportent dans leur vie au DLD, c'est des choses qu'ils ont appris à l'intérieur de leur sport.
T'sais. 100%.
Puis ça, c'est des outils que, tu sais, on regarde les États-Unis, puis on regarde l'argent qu'ils mettent dans leur sport, puis on regarde comment ils voient, oui, on amenait ça comme une business, mais au-delà de la business, je vois ça comme un développement d'une société où ce que les valeurs qui sont transmises sur un terrain ou sur une glace, peu importe où, mais c'est des choses que tu vas pouvoir appliquer dans plein d'autres choses. T'sais. Puis là, ta question était par rapport au ski, mais moi, nous amène plus loin que ça. T'sais. Puis j'espère tellement que on, comme société, on va voir le bienfait du sport, puis qu'on va pas voir ça comme une dépense. T'sais, on va voir ça au contraire comme un investissement pour nos jeunes, puis de faire en sorte que ben ça va être des jeunes qui vont être plus en santé, puis ça va être des jeunes qui vont appris c'est quoi la rigueur au travail, qui vont avoir appris c'est quoi l'engagement, parce qu'en 2025 l'engagement c'est fragile.
Effectivement.
Puis ben ça, je pense que ça va faire en sorte que ben on va avoir des meilleurs athlètes, on va avoir des meilleurs employés, des meilleurs employeurs. T'sais.
Mm-hmm. Mettre l'ego de côté, tu sais.
100%.
Tu sais, genre tu le disais là, dans le fond, si on revient à ce que tu disais au début à propos des coachs. Mettez votre ego de côté, puis gênez-vous pas de le demander, d'aller voir ailleurs ce qui se fait, de le demander, si vous avez des questions, whatever. Ouais. Je parle, on partage toute cette passion-là, tu sais. Fait que, tu sais, pourquoi pas, tu sais, je comprends que peut-être en août, puis mettons novembre, tu sais, on n'est pas obligé d'être amis, mais le restant de l'année, tu sais, le 9-8 mois qui reste après ça, on peut jaser puis on peut en partager. T'sais. Puis de l'autre côté de la médaille, parce que quand on va plus, mettons, côté scolaire et tout ça, pour être bien honnête, la majorité des gars avec qui j'ai parlé justement de l'école, les sports et tout ça, j'en connais pas beaucoup, t'sais, qui étaient là. Moi, écoute, c'est l'école avant le football, t'sais, je vais être bien honnête. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est moi. Tu sais, j'étais allé à Knoxville, puis moi, j'ai toujours dit que j'allais pas au cégep. Moi, je jouais au football, puis c'est ça. Là. C'était, pour moi, c'était ça. Là. J'allais jouer au football à Knoxville, j'allais pas au cégep à Knoxville. Parce que c'était vraiment accessoire, l'école. Là. Mais ça devrait pas l'être, mais le football m'a permis à rester sharp à l'école, à faire mes affaires, me montrer ces valeurs-là que... Ben, probablement que je n'avais pas eu mon sport, ben, tu sais, je sais même pas où c'est que je serais, là, tu sais. Fait que, non, j'ai vraiment aimé ça. Comment, tu sais, ça va plus loin que juste qu'est-ce qu'on se partage entre nous.
Par
en
les
foot.
Teams, c'est ça.
Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça va plus loin que ça. Puis, tu sais, quand on parle des États-Unis, tu sais, en ce moment, c'est un sujet qui est fragile, mais tu sais, si on en parle pour de vrai, le sport, là, Criftorial, le high school, ils ont des installations de Mongols. Mais c'est parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont compris, c'est que s'ils ont des bonnes installations, des bons sports, ben ils vont faire amener plein d'étudiants. Ils vont faire amener plein d'athlètes. Fait que bon, qu'est-ce que nous on peut faire? Qu'est-ce que nous on peut apprendre de eux? C'est ça qui est intéressant le plus possible. Ma dernière question, un peu par rapport à ça. En fait, moi, je voudrais avoir ton opinion plus. Ben, en fait, oui, personnel. Mais toi, si t'avais, mettons, à changer une affaire, peu importe, t'avais une baguette magique, puis il y a une affaire qui en ce moment elle te gosse, puis tu te dis, regarde, ça pourrait être changé pour le bien des jeunes ou le bien de notre sport, ça serait quoi?
Oh, c'est une bonne question, ça. Une chose que je pourrais changer pour le bien de notre sport, d'un matin, ben c'est plate là, mais je vais parler de l'argent qui est ingéré dans nos institutions, tu sais. Parce que ça dépend de ça, parce que l'argent nous amène des outils, puis après ça, ben un coup que t'as des outils, ben t'es capable de faire plein d'affaires, t'sais.
Exact.
Mais si demain matin j'étais capable de changer les trucs, c'est faire comprendre que le sport, c'est là, je parle du sport en général, là, mais c'est certain que le foot, il y a une partie spéciale. Là. Faire comprendre que le sport est aussi important qu'un système de santé à la société.
Mm-hmm. Merci. Amen to that, man. C'est vraiment bon. C'est vrai. Non, parce qu'écoute, des gens qui font du sport, ben ça allège ton système de santé, I guess. Mais,
ben, c'est de la prévention, tu sais.
Exact.
Je veux dire, tu essaies de guérir le bobo ou tu le préviens? Je veux dire...
Tu sais, c'est pas juste ça. T'sais, si on va plus loin que ça encore, là, on sort du foot complètement, mais c'est pas grave. Je trouve ça hyper intéressant qu'on parle de ça. Quand j'ai commencé le football, j'avais 8 ans. Commencé, mettons, à m'entraîner dans le gym, juste, mettons, plus pour le fun, vers 13-14 ans. J'ai commencé à vraiment m'y mettre pour de vrai quand j'avais 15-16-17 en montant.
Ouais.
Ben, tu sais, aujourd'hui, je m'entraîne encore. Aujourd'hui, je bouge encore, puis peu importe le sport que je vais faire, ben je me tiens en forme, je me sens bien dans moi-même, ben ça a parti de où? Ça a parti parce que j'ai pratiqué un sport, justement. Mm. Fait que, en tout cas, c'était un segment que je voulais parler parce que j'ai trouvé que c'était tellement un bon point que tu avais amené parce qu'encore une fois, c'est des choses que les gens parlent pas puis ça devrait être parlé. Mm. Saint-Jean, maintenant. Parlons des géants de Saint-Jean. Je pense que c'est temps d'en parler. J'ai vu dans en 2019, Saint-Jean avait posté un article dans lequel, je te cite, tu avais dit « C'est un retour aux sources et je suis excité à l'idée de poursuivre le travail fait par mes deux anciens entraîneurs, Alex Vendette et Alex Surprenant. C'est un immense défi et je suis impatient d'entrer en fonction. » Alex Surprenant qui a réussi à amener le programme en division 1, c'est sûr que c'était, comment on dit ça déjà, un
gros... Grosse filière à remplir.
Exact, c'était des grosses filières à remplir.
Ouais.
C'était quoi le plan pour toi en arrivant en 2019? Aussi, je trouve que, je pense que c'était ta première expérience en tant que head coach, si je me trompe pas.
Ouais. Le plan, je vais toujours dire qu'en 2019, il y a tellement de choses que je savais pas, que je savais pas. T'sais, quand que tout le monde veut devenir head coach, pis ça, j'ai encore un appel téléphonique avec Glenn Constantin qui me félicite pour mes nouvelles fonctions en 2019. Puis il dit, JP, tout le monde veut devenir head coach, mais on est jamais prêt. Puis c'est à force de le faire qu'à un moment donné, tu apprends à connaître c'est quoi ce métier-là, puis cette vocation-là. Puis en 2019, le plan, la réalité, c'est moi je prenais ce qu'Alex avait fait, puis je rajoutais mes valeurs à ça, mon énergie, mon enthousiasme, ma vision des dernières années à Valleyfield ou Rougéard, puis là c'était comme let's go, on part puis on gagne. Puis la réalité c'est que il y avait plein de choses comme que je dis que je savais pas. On est bientôt 6 ans plus tard. Puis le plan, mais finalement, ça a été, tantôt je parlais d'outils, là, ça a été de donner plus d'outils à cette organisation-là. T'sais. En 2019, le poste d'entraîneur en chef de l'équipe, il y avait un adjoint qui était à demi-temps, that's about it.
Mm-hmm.
Comme j'ai dit tantôt, on est rendu 2 personnes à temps plein pour le foot. On a une personne en interne, on est là 3 ans, on est le premier cégep à avoir mis ça de l'avant. C'est une personne qui est là au niveau psychosocial pour les étudiants en club. Mais cette personne-là, cette ressource-là, Elle est là à temps plein pour nos étudiants athlètes à la base. Elle va rien de faire d'autre, puis ça est à l'interne à l'école. Oui, c'est bien entendu, on a une personne qui s'occupe de l'académie comme les autres cégeps. Mais on a commencé à se développer un réseau en intérieur de cégep qui fait en sorte que les gars ont des outils pour pouvoir performer sur les bancs d'école, parce que c'est ça la priorité. Puis après ça, c'est sur le terrain. Tantôt, je disais, la première chose que je voulais en 2019, c'était de gagner. T'sais. Mais la réalité, c'est qu'il y a une équipe par année qui gagne. Puis si je me focus maintenant sur puis le plan en 2025, c'est je te dirais que c'est un pas mal le même qu'en 2020-21. T'sais. Ma première année, je suis arrivé en mars, puis j'ai essayé de faire des choses du mieux que je pouvais, du mieux que je savais. Puis en m'entourant de bonnes personnes, des gens qui connaissaient le milieu, on a mis du temps sur le fameux processus là, qu'on connaît en milieu, puis c'est de faire en sorte que les gars sont dans un environnement dans lequel ils vont être bien, auquel ils ont des valeurs humaines qui vont se sentir, qui sont chez eux. Puis quand t'es bien quelque part, ultimement, c'est là que tu vas avoir du succès. Puis tantôt, on parlait de qu'est-ce qu'il faut pour comme équipe pour gagner. Il y a le développement en l'air de ça. Fait qu'on a réussi, le plan a changé en 2019 et 2020-21 parce que justement, clairement en 2019, le plan, c'était un jeune immature qui prenait cet emploi-là, même s'il avait quand même un beau pedigree. Puis je te dirais que j'ai évolué, comme j'ai dit, comme personne dans tout ça. Puis le programme de football de Saint-Jean a énormément évolué, justement. Je vais parler de 2007 à 2025 pour les outils qu'on donne à nos étudiants en club parce qu'on n'a rien envié à aucun cégep au Québec présentement en termes d'intervenants puis de qualité de temps qu'on est capable de nous donner à nos étudiants en club avant même de mettre les pieds sur un terrain de foot. Puis ça, c'est pour nous, c'est qu'est-ce qu'on a décidé de mettre de l'avant à Saint-Jean. Ouais.
Puis tu sais aussi, c'est que c'est un des gros problèmes des cégeps, c'est justement, comme tu dis, les outils. C'est dur de développer un programme qui va te permettre de gagner, qui va avoir du succès quand tu as de la misère à avoir un coach à temps plein. Puis là, l'affaire qui est le fun, c'est que tu m'as dit, là, vous êtes à deux coachs. Vous avez une personne de plus qui est une personne plus de ressources, mais qui est hyper importante aussi à avoir dans l'organisation. Le fait d'être arrivé dans un programme où est-ce que justement, tu étais pratiquement seul en sens en termes football, ça a dû être un bon challenge. T'sais. Puis t'sais, quand tu es tout seul à faire presque tout côté plus admin, côté c'est rendu qu'il faut que tu fasses un peu d'admin. C'est rendu qu'il faut que tu fasses une culture, faut que tu recrutes, faut que c'est de la job, t'sais. Puis c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi justement que au Québec, c'est tough de vraiment développer ou sortir du trou, mettons, là, j'ai envie de dire.
Je vais prendre un exemple qui me vient rapidement en tête, les Titans de Limoilou, c'est un programme qui, dès que le programme a été mis en place avec la direction du Cégep, puis Dave Parent, c'est quelqu'un que je respecte énormément, là, puis la structure qui a monté, puis je veux dire, ça se trouve sur les réseaux. L'idée, c'était de monter ce programme-là en division 1 puis d'être une équipe compétitive, tu sais. Puis en 2018, les Titans de Limoilou avaient vraiment pas l'affiche qu'on pense qu'aujourd'hui, les Titans de Limoilou vont avoir l'année prochaine. Ça peut aller très vite des fois, mais quand justement ton château de cartes est monté de la bonne façon sur les premiers étages, mais après ça te permet de le pousser encore un peu plus. T'sais.
Exact.
Puis c'est pour ça que tu sais, on parle de ressources, on parle d'outils, mais je veux dire, quand à un moment donné, la base de ta pyramide est solide, tu as parlé de culture, on parle de suivi académique, préparation physique, psychosociale. Je veux dire, un coup que ça, c'est béton, là. Mais après ça, je veux dire, ultimement, les familles vont te faire confiance, les jeunes vont te faire confiance, puis un coup que tout ça, t'es parti, là, t'as du bon recrutement, puis les athlètes que tu mets sur le terrain, sont heureux, sont dans un bon environnement, puis ils sont capables d'exceller. T'sais.
Exact. Yeah. C'est quoi, est-ce que vous avez, c'est quoi vos bases du programme, vos valeurs un peu, si t'as envie des partager.
Y a une phrase. En 2022, ça a été une année très difficile à Saint-Jean. On avait juste une victoire, puis dans cette off-season-là, il y a eu beaucoup de changements dans l'organisation. Puis il y a un leader de l'équipe là, pour le nommer, là, Félix Joly, qui est rendu à l'Université McGill, que c'est un jeune homme qui a eu un énorme impact sur l'organisation. Et ici, il est arrivé avec un slogan qui est resté, qu'on appelle Stand Tall. Stand Tall parce que, tu sais, avec les géants, oui, certains qui ont une allusion, mais la réalité, c'est que Stand Tall, c'était de comment qu'on se tient dans n'importe quelle situation, tu sais. Comment tu te tiens sur le terrain quand ça va bien, quand ça va moins bien, tu sais, puis à quel point que ça, ça découle, ce comportement-là, puis je suis convaincu que le non-verbal, il vient dans ta tête rapidement. Un non-verbal d'une personne qui se tient grand, elle vient avec des valeurs, tu sais. Puis il y a des valeurs qui sont découlées de ce slogan-là qu'on met, notre hashtag là, qu'on met un peu partout maintenant, tu sais, mais c'est certain que le respect, la famille, la confiance, c'est trois choses qui sont inculquées ici. Après ça, il y a des valeurs au niveau de notre travail, tu sais, oui, certains, on va être travaillé, on va avoir du crit, on va être tough, mais pour nous, là, le core de l'organisation, c'est stand tall, puis les trois valeurs qui viennent avec, puis pour que nous, comme organisation, tu sais, ça veut dire de quoi. T'sais. Puis l'année passée, on a un joueur qui est décédé malheureusement d'une méningite bactérienne. Ça s'est fait subitement. Puis on l'a pas vu venir. Là. Je veux dire, personne ne pouvait savoir ça. Puis le slogan qui en 2023 avait eu un énorme impact pour l'équipe de se relever après une saison difficile, puis qui nous a permis d'avoir une fiche de 5 victoires, 3 défaites, qui est la meilleure jusqu'à ce jour en D1. Le prix une tangente complètement différente. Puis c'était de se tenir grand dans l'adversité que des gars de 17-20 ans qui avaient peut-être pas nécessairement encore connu, de perdre un proche, mais de perdre un ami pour comme ça, pour des causes que tu peux même pas expliquer. Puis ces valeurs-là, on parle de Saint-Jean, la famille, oui, c'est la famille, c'est fort dans toutes les équipes de foot, mais je pense qu'on a réussi à créer quelque chose de vraiment spécial ici à Saint-Jean, puis les épreuves qu'on a dû vivre dans les deux dernières saisons, surtout, mais je pense que ça fait le programme qu'on est aujourd'hui.
Certainement, puis tu sais, je pense que vous avez réussi à vous créer une réputation d'un programme, justement, qu'il faut pas prendre à la légère, tu sais, toutes les équipes n'y a pas une équipe que tu ne dois pas te permettre de ne pas te préparer, tu sais, avant de jouer. Mm. Mais, tu sais, moi, personnellement, j'ai toujours vu Saint-Jean comme étant quand même une bonne équipe. Tu sais, vous avez, honnêtement, vous jouez quand même physique. J'ai adoré jouer contre Saint-Jean, honnêtement, les années, parce que tu étais là quand on a joué, quand j'étais à l'Enox, puis on a joué contre. J'aimerais qu'on parle, de 2-6 en 2024. Comment qu'on bounce back de ça pour cette année? C'est quoi la vision, mettons, pour la prochaine saison?
2024, comme j'ai dit tantôt, tu sais, il y a beaucoup de monde qui voyait Saint-Jean comme une équipe peut-être, sans dire favorite, là, mais je veux dire, une équipe qui était pour bien faire durant la saison avant que tout ça commence. Puis on a eu des blessures qui... Je veux dire, quand on parle de malchance tantôt, là, tu sais, je veux dire, des fractures, des interosseuses, je veux dire, des déchirures ligamentaires, tu sais, à des joueurs très importants. Tu sais. Puis étant un programme qui, justement, on essaie de faire notre place, peut-être qu'on n'a pas nécessairement la profondeur que d'autres équipes élites vont avoir. Puis on a été poussé en 2024 à mettre des gars sur le terrain qui peut-être n'étaient pas encore prêts. Tu sais. Ce qu'on a décidé de faire cette année, en 2025, c'est de poser la question sur c'est quoi la nature des blessures. T'sais. Qu'est-ce qui a causé ces blessures-là? Parce qu'il y en a eu pas mal. De là à dire comme staff médical, là, c'est comme, on peut avoir un break, là. Ça fait pas de sens. T'sais. Puis la qualité, l'intensité des blessures, là, c'était honnêtement triste pour les gars qui ont fini leur carrière beaucoup sur ces blessures-là au niveau collégial parce que c'est arrivé quasiment à tout définissant. On a revu notre façon de préparation physique. C'était pas pour dire qu'on faisait quoi de pas bien. Je veux dire, on regarde les progrès de nos joueurs avant, tu sais, mais on a mis plus d'emphase sur la pliométrie, puis le pied au sol, puis à quel point qu'on est justement en position de force, dans quelle situation, puis des changements de direction un peu plus compliqués pour toutes les positions, tu sais, de faire en sorte que les gars, dans leur hiver, on les a développés comme athlètes, puis on a fait des phases de combat, on a fait du jiu-jitsu, on a fait du wrestling, on a développé les gars comme athlètes comme on l'a jamais fait. T'sais. Puis j'ai été le premier défendeur à dire que je trouve qu'on spécialise activement les athlètes au Québec, puis rendu au collégial, c'est normal de le faire, mais j'ai dit cette année, tu sais quoi, man, just too bad, on va faire d'autres affaires, puis les gars vont bouger comme athlètes, puis de faire en sorte que justement, ça, c'est une chose. Après ça, dans une saison de 2-6, il y a des games où on était là, puis pour X ou Y raison, on perdait un momentum. On a le luxe, comme que je parlais tantôt, là, d'avoir une personne qui travaille avec nous à temps plein, puis on a eu des ateliers à tous les mois, à tous les deux semaines, toute l'équipe ensemble pour parler d'un principe de, je m'en cache pas, là, de momentum. T'sais. Comment qu'on réussit comme organisation au foot, qui est un sport qui est arrêté, à créer un fameux momentum ou de pas le perdre. T'sais. Puis ça, le momentum, tout le monde sait c'est quoi, mais...
C'est quoi, comment, vraiment?
Puis, ouais. Tu vas jouer une game, puis là, c'est comme, là, ils ont pris le momentum. Bon, OK, mais nous autres, on l'a pas perdu. Eux, ils ont pris un pace, mais nous, techniquement, à quel point qu'on l'a perdu, ce pace-là, tu sais. Fait que ça a été de mettre des mots, ça a été de faire des activités, de faire en sorte que les gars étaient capables de s'exprimer, puis on a essayé de représenter un peu des matchs de foot dans nos entraînements. Fait qu'en muscu, puis en termes de course.
Très cool.
Puis, tu sais, on parlait d'outils tantôt, tu sais, on a le luxe de pouvoir entraîner tous les gars de l'équipe ensemble. Nous autres, tous les vétérans, là, en muscu, puis en course, c'est des plages horaires. Tous les gars de l'équipe sont dans la salle de muscu en même temps. Tous les gars de l'équipe sont au track en même temps. Puis on a réussi justement à les créer, justement, des petites choses que pour nous, on voyait qui étaient pour être bénéfiques dans un match pour ne pas perdre un momentum ou de s'en créer à certains moments. Puis, tu sais, quand tu perds, t'essaies tout le temps de te réinventer, tu sais. T'essaies tout le temps de, OK, mais ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, tu sais. Puis, à un moment donné, il faut pas que tu te perdes non plus, tu sais. C'est pas parce qu'en 2024, on a une saison de 2-6 que ça veut dire que tout ce qu'on faisait, c'était pas bien. T'sais. Mais comme je disais un petit peu tantôt par rapport à aller voir des entraîneurs, c'est ça qu'on a fait. Mais pas nécessairement pour des skins. C'est poser des questions, t'sais, de rajouter un morceau de puzzle que peut-être que ça, on va le faire différemment cette année. T'sais. On a déjà entamé des changements pour l'hiver 2026 par rapport à ce qu'on a vécu en 2025. Puis c'est comme ça que la roue tourne, puis c'est comme ça qu'on progresse. Fait que, Fait comment qu'on bounce back de 2024? Ça va être avec du caractère. Ça va être avec des gars qui vont être résilients puis qui vont croire en nos valeurs. Puis je pense qu'après ça, ben, ça va être d'y aller un match à la fois parce que c'est une ligue extrêmement compétitive, la D1. Des bons entraîneurs partout, des bons clubs partout, des bonnes organisations partout. Puis il n'y a pas de semaine où tu peux te dire justement, t'sais, on peut prendre ce qui est plein à la légende. C'est pas vrai.
Exactement. Exactement. Puis j'aimerais ajouter d'aller s'amuser puis de jouer au foot. Je pense que c'est le plus important. Mais merci beaucoup d'avoir partagé ça. Est-ce que le recrutement s'est-tu bien passé pour vous cette année?
Ouais, on a une belle cohorte, honnêtement. On a été comblé des besoins là, à des positions qui étaient relativement clés. Je pense à des. Je ne veux pas oublier personne et nommer des noms là, à plus finir, là, mais on est vraiment content de la cour de recrutement de cette année. Là, puis je pense que c'est des gars qui. Des bons joueurs de foot, mais c'est des bonnes personnes. T'sais.
Ouais.
Puis qui viennent se greffer à un groupe que, en termes de valeurs humaines, là, que je pense qu'on a de quoi de particulier. Puis je pense que c'est des gars qui non seulement vont avoir du caractère sur le terrain, mais je pense que c'est des gars qui vont fitter très bien dans ce vestiaire-là, puis avec les valeurs de l'organisation.
Mm-hmm. Je te dirais que ça s'en vient de. Tu sais, ça s'en vient de. Ben, c'est pas vrai. Recruter la personne, je pense que c'est depuis toujours, mais tu vois, depuis plusieurs discussions que j'ai avec plusieurs head coach et tout ça, la plupart m'en parlent. T'sais. Puis on aurait dit que tranquillement, pas vite, ça se met plus de l'avant. Ça. Puis c'est hyper important de recruter des gens que justement, qui vont fitter le genre de personnes que tu vas recruter, qui vont fitter le programme, tu sais. C'est hyper important, ça.
Je te donne un exemple. Là. Tu peux être le meilleur joueur de ta ligue, t'sais. Mais si pour toi, aller au gym, c'est une tâche, puis d'aller au gym, c'est pas le fun, c'est impossible que tu vas aimer ta carrière collégiale universitaire. C'est impossible. Tu peux être le meilleur à 16 ans, je suis correct, tu sais. Mais si pour toi, ça te parle pas, ben, il y a des bonnes chances que, malheureusement, ça soit les derniers bons moments de football de ta vie, tu sais. Puis c'est correct, peut-être qu'il y a un autre sport qui est fait pour toi, tu sais.
Mm-hmm.
Je veux dire, peut-être que c'est pas un sport d'équipe qui est fait pour toi, finalement, puis que tu t'en rends compte rendu à 16 ans, puis de là, l'importance de ne pas se spécialiser rapidement dans un sport. Mais, tu sais, juste cet exemple-là, pour moi, si tu veux jouer en Division 1 au Québec, faut que tu traites. Faut que tu tripes sur le 9 mois de préparation qui vient avant tes 8 games.
Effectivement.
Faut que tu tripes là-dessus. Sinon, ben, propos.
Exact. Exact.
Ouais.
Merci beaucoup, JP, d'avoir pris ton temps, de venir partager un peu ton expérience de coach, mais aussi parler d'IGN, de Saint-Jean. Mettons une petite phrase de clôture, de fermeture. Tu dirais quoi? Peut-être, je sais que là, la nouvelle saison commence, mais écoute, le recrutement, ça se fait à l'année.
Ouais.
Tu dirais quoi au gars pour l'année prochaine, pour s'ils sont intéressés à venir à Saint-Jean, tu dirais quoi à ces jeunes-là?
Si t'as envie de vivre une expérience que ce sera pas une transition, t'sais. Si tu as envie de vivre une expérience que tu vas te rappeler toute ta vie, là, avec des gars que tu connais pas, parce qu'on est du monde de partout au Québec. Si tu as envie de développer des liens, de te sortir de ta zone de confort, puis de faire preuve de caractère, puis d'être fier d'avoir fait une différence dans une organisation, ben, probablement qu'il y a une gang de boys à Saint-Jean qui te ressemble.
Exactement. Puis, j'aimerais ajouter que tout ce que tu dis, ce sont des aspects qui peuvent te permettre de grandir énormément en tant que personne puis de devenir littéralement la meilleure version de toi-même.
Yep.
Donc, 100%. JP, merci. J'aimerais dire Jean-Philippe Bégin, merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast, d'être venu partager ça.